voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Cette émission est consacrée aux mots. Aux mots de la langue française, bien sûr, et plus exactement à la vie des mots, car ceux-ci, comme nous tous, naissent, vivent leurs aventures et connaissent aussi une fin, une désuétude, voire une disparition. L'histoire des mots, tel était le titre d'une conférence donnée à l'AMOPA, Association des membres de l'Ordre des Palmes académiques, par Jean Aubat, correspondant de l'Institut à l'Académie des sciences morales et politiques, qui fut inspecteur général de l'éducation nationale. Et je vous propose d'écouter le texte de cette conférence, lu par le comédien Fernand Guillot.
Les mots ne sont pas de simples pièces de monnaie que l'on échange. Ils font en quelque sorte partie de nous-mêmes. Mieux encore, c'est toute une vaste communauté de personnes qui vit avec eux et d'eux. Victor Hugo a magnifiquement chanté cette noblesse des mots. Que le mot, qu'on le sache, est un être vivant, les mots sont les passants mystérieux de l'âme. Michael Edwards, dans son livre « L'émerveillement », a marqué avec finesse cette originalité du langage. Il nous renseigne sur les recoins obscurs, les nuances cachées de l'esprit humain. Réserve de leçons, demeure précieuse du passé, il renferme en son organisme vivant, en un sens son corps spirituel, des pensées et des émotions que l'on est tenté d'attribuer à une activité autonome des mots. Mais il ajoute que chaque langue maternelle pense de manière différente et il en donne pour exemple le mot anglais « to wonder » qui en français peut signifier à la fois « se demander »,« s'étonner »,« admirer », d'où les difficultés de la traduction. Il est passionnant de suivre cette vie des mots, leur naissance, leurs aventures, leur disparition parfois. Nous avons, pour nous permettre cette découverte, les travaux des grammairiens, des philologues, des linguistes. Le plus illustre d'entre eux est Vaugelas, qui vécut au XVIIe siècle et qui mourut en disant « je m'en vais ou je m'en vas, car l'un ou l'autre se dit ou se disent ». Magnifique vocation, restée aussi solide jusqu'à la dernière heure. Nous disposons d'excellents dictionnaires, ceux de Littré, Larousse, Robert, Alain Rey, Jean Provost. Nous avons assisté nous-mêmes à l'apparition de certains mots. Bling bling, par exemple, qui se trouve pour la première fois dans le journal Libération du 19 décembre 2007. Un président bling bling. Le mot a été emprunté à l'argot jamaïcain, qui l'avait tiré de la chanson d'un rappeur de la Nouvelle-Orléans. Le style bling-bling se caractérise par une ostentation qui exacerbe les signes de la richesse en détournant l'attention de la réalité. Certes, le français possédait depuis 1880 l'expression « tape à l'œil ». Mais elle a une violence et une vulgarité que l'on ne trouve pas dans le charme trompeur de bling-bling. Les plus âgés d'entre nous ont connu sous l'occupation le mot « zazou ». Il n'a pas vécu longtemps. Il reproduisait les onomatopées de certains vers de jazz américains et indiquait une élégance exagérée de mauvais aloi. Certains mots vieillissent. Comme mes contemporains, j'ai longtemps parlé de la malle de ma voiture. Et c'est sur le conseil de mes enfants que j'ai récemment employé le mot « coffre ». Dans un joli livre pour tout l'or des mots, Claude Gagnère a dressé une liste de mots tombés en désuétude. On y trouve le mot « sadiner », qui au féminin signifie « propre-être », un peu coquin peut-être. Autant qu'une plus blanche, il aime une brunette. Si l'une a plus d'éclat, l'autre est plus sadinette. C'est de Mathurin Régnier. Gagnère aurait pu ajouter le mot « saoulé », Dantzig, dans son dictionnaire historique de la littérature française, écrit « De vieux mots sont au grenier qui nous serviraient encore. » Souloir, par exemple. Souloir, qui veut dire « avoir l'habitude de ». Un mot au lieu de quatre. Nous connaissons les vers où La Fontaine parle de lui-même. Quant à son temps, bien su le dispenser, deux parts en fit dont il voulait passer, l'une à dormir, l'autre à ne rien faire. Aura du futur verbe ouïr nous paraît un peu étrange. Il ne survit que dans quelques expressions comme j'ai ouï dire ou par ouï dire. Il a été remplacé par entendre. Peut-être a-t-il été victime des difficultés de sa conjugaison. Le futur est aura, mais le participe passé, oyant. Que vous n'avez servante, oyant telle nouvelle, Ronsard. Malherbe, dans sa prière pour le roi allant en Limousin, célèbre la paix revenue et il écrit « Le peuple qui tremble aux fureurs de la guerre, si ce n'est pour danser, n'aura plus de tambour ». Telle est la version de toutes les éditions de 1607 à 1621. Mais en 1621, aura, o, 2-R-A, est remplacé par aura, A-U-R-A. Malherbe a voulu supprimer un mot qui n'est plus d'usage courant. Pourtant, on le retrouve encore dans le Cid en 1636, dans la bouche de Chimène, parlant de son père mort, « Son sang criera vengeance et je ne l'aurai pas ». Auré au désert à vie.
Jean Aubin se penche ensuite sur la naissance des mots. Oh, rassurez-vous, ce n'est pas un discours savant, mais un bon rappel des origines de notre langue française. À grands traits, il parcourt plusieurs siècles et s'amuse à rappeler quelques anecdotes et quelques histoires savoureuses à propos de notre vocabulaire.
Pour mieux comprendre le sens des mots, sans doute est-il bon d'assister à leur naissance. Il convient donc de nous interroger sur les origines de notre langue. Quand les soldats romains eurent conquis la Gaule, les Gaulois se mirent à parler la langue de leurs conquérants. Depuis, les enfants ont toujours compris leurs parents, et en un sens, nous parlons latin. Pourtant, en 2007, Bernard Cerchiglini a publié un livre « Une langue orpheline ». Cette langue orpheline, c'est la langue française qui a perdu sa mère. Le français vient du latin comme l'italien, l'espagnol, le portugais, mais il est plus éloigné du latin que ces trois langues. Cerchiglini précise, on peut parler de créolisation, c'est-à-dire de formation d'une langue maternelle par fusion d'éléments issus de plusieurs idiomes. Le proto-français du Xe siècle résulte de la créolisation du latin parlé au contact du gaulois d'abord, de la langue germanique franque ensuite et principalement. Je reviendrai sur le gaulois. Son rôle n'a pas été très important. La prononciation germanique, en revanche, a fortement marqué le français. Le gallo-roman a reçu un accent tonique très appuyé. Le français fut victime d'une véritable érosion phonétique, en découle un plus grand éloignement de son origine latine. Hugues Capet, en 987, a été le premier roi unilingue de langue romane. Autre cause de l'originalité du français par rapport au latin classique, le gallo-roman descend non pas du latin de Cicéron, mais du latin des légionnaires. Le mot « tête », par exemple, ne vient pas du latin classique où l'on utilise le mot « caput ». Celui-ci a donné le mot « chef » que nous retrouvons dans « couvre-chef » ou dans le « chef », celui qui assure le commandement, de même que la tête fait agir les membres. « Tête » vient du latin vulgaire « testa », qui signifie « capsule »,« vase »,« tesson », façon aussi familière de s'exprimer que la nôtre quand nous employons en parlant de la tête, les mots fiole ou bobine. Cet emprunt à un latin peu classique se retrouve pour nombre de mots français. Un grammairien du XVIIe siècle, le père Bourg, était parfaitement conscient de cette origine du français. Voilà une étrange origine pour une langue aussi noble que la nôtre. Je ne trouvais pas fort bon qu'un savant critique l'eût appelé un avorton de langue latine. Mais, à ce que je vois, il n'a rien dit qui ne soit fondé. À partir de la Renaissance, les défenseurs et illustrateurs de la langue française fabriquent des mots en les calquant sur le latin classique qu'ils admirent. D'où une série de doublets avec deux mots, l'un venu du latin parlé, l'autre du latin littéraire. Entier, intègre. Frêle, fragile. Grimoire, grammaire. Aigu l'acuité, œil oculaire, oculiste. Des mots français ont été encore formés à partir du latin à une époque relativement récente. Au début du XIXe siècle, le confort se développe. On commence à utiliser une table de toilette garnie d'une cuvette et d'un pot à eau. Comment l'appelle-t-on ? À la messe, les fidèles entendent le prêtre dire le psaume 26 « Lavabo inter innocentes manus meas ». En 1801 apparaît le mot « lavabo ». En 1825, les ingénieurs chargés des transports ont tous fait au lycée des versions latines des thèmes latins et même des vers latins. Lorsqu'ils organisent un service de voitures collectives, ils trouvent bon de montrer leur science en donnant à ces voitures un nom latin. Elles sont faites pour tous. En latin, « omnibus ». Voici les omnibus. En 1861, apparaissent les voitures automobiles, une combinaison du grec « auto », du latin « mobilis », automobile. En 1906, les omnibus automobiles deviennent des autobus, avec la première syllabe d'automobile et la dernière syllabe d'omnibus qui n'a aucun sens. Quelques années plus tard, cette syllabe « bus » donne un nom à part entière, un bus. Mieux, ce bus sert à former des noms composés, trolleybus, abribus, airbus. Nos jeunes emploient volontiers le mot super, mais cette fois, le mot latin arrive en français par l'intermédiaire de l'anglais des États-Unis. Nous voilà bien loin des Gaulois. En fait, le Gaulois a peu marqué le gallo-roman qui a gardé seulement une soixantaine de mots gaulois, des noms de véhicules que les Romains ont empruntés aux Gaulois qui étaient d'excellents charrons, le char, la charrue, des noms d'oiseaux, l'alouette, de poissons, le brochet, la lotte, la tanche, quelques animaux terrestres, le blaireau, le chamois, le bouc, le lièvre. Mais ce mot a été supplanté par le mot castor emprunté au latin qui avait lui-même emprunté au grec des noms d'arbres, le bouleau, le chêne, le coudrier. Ajoutons la ruche, le bec et bien sûr le druide. Un mot encore, l'alieu qui marque la distance qui a survécu jusqu'au kilomètre et à la Révolution et que nous employons encore dans des expressions comme les bottes de Saint-Dieu, où j'étais à 20 lieues de pensée. Henriette Walter s'étonne de constater que ce mot a subsisté alors que les Romains avaient installé des bornes militaires sur tout le territoire et que les Romains les avaient tous les jours sous les yeux, la lieue et le mille ne marquant pas du tout la même distance. Elle conclut avec humour que nos ancêtres étaient comme nos contemporains qui continue à compter en anciens francs. Les mots gaulois acceptés, allons-nous retrouver uniquement le vocabulaire latin ? Nullement. Car au cours des siècles, le vocabulaire français n'a cessé de s'enrichir en empruntant à de nombreuses langues étrangères. Si nous considérons les vêtements, par exemple, veste et pantalon viennent de l'italien, t-shirt de l'anglais, châle et turban du persan, mantille de l'espagnol, loden de l'allemand, gilet du turc, jupe de l'arabe. La découverte de l'Amérique nous a donné de nombreux noms que des légumes et des fruits avaient dans les langues amérindiennes et qui sont passés en français par l'intermédiaire de l'espagnol et du portugais. Dans la mesure où il est possible de donner des chiffres, on peut dire que sur les 60 000 mots français, 8 600, soit à peu près 15%, sont d'origine étrangère et que si on compte les mots les plus courants, ceux qu'on trouve dans le Petit Larousse ou le Micro-Robert, sur 35 000, on en trouve 4 200, soit à peu près la même proportion. En tenant compte de cette dernière statistique retenue par Henriette Walter, la langue à laquelle nous avons le plus emprunté est l'anglais, avec plus de 1 000 mots, soit 25%. L'italien vient en second lieu avec plus de 700 mots, soit 17%. Jusqu'au 19e siècle, c'est l'italien qui arrive en tête.
Êtes-vous prêt pour un petit tour d'Europe et même un peu au-delà ? Jean Auba suit à la trace les origines d'un grand nombre de mots hors des frontières de l'hexagone français. On commence par l'Italie, on poursuit par le Moyen-Orient, puis le monde germanique, la Russie, l'Angleterre. Petit voyage dans les berceaux d'une langue toujours en essence qui n'hésite pas à emprunter des mots pour en quelque sorte les naturaliser.
Je vous propose, en commençant par l'Italie et en finissant par l'Angleterre, un grand tour dans l'espace et le temps. Un peu fatigant, je le crains, mais riche d'enseignements sur les civilisations et les cultures. L'Italie, c'est d'abord la Renaissance, le commerce et les arts. Au commerce, nous devons le duca, la piastre ou la gazette. Celle-ci représentait une pie, gaza, d'où le nom de gazetta. Elle permettait d'acheter une feuille d'information et c'est dans ce sens que le mot est passé en français. Dans le domaine des arts, nous trouvons le balcon, la coupole, le dessin, l'aquarelle, l'arpège, le solfège, le virtuose. L'art du vêtement nous donne le costume, l'escarpin, le pantalon, la pantoufle et la veste. Rabelais a été, parmi les premiers, à employer les mots ballon, gondole ou citrouille. Quant à Montaigne, il écrit dans son journal de voyage en Italie en 1580 « Il y a aussi de quoi boire et de quoi se baigner. Il y a aussi un égout qu'il nomme la Duccia. Ce sont des tuyaux par lesquels on reçoit de l'eau chaude en diverses parties du corps, et notamment sur la tête. Voici la douche. » Le succès de l'italien est tel qu'il inquiète les défenseurs de la langue française. Henri Estienne, par exemple. « Pourquoi, dit-il, utiliser des italianismes comme « manquer au lieu de défaillir, baster au lieu de suffire ?» C'est manquer qui a triomphé, mais c'est suffire qui est resté. Au XVIIe siècle, vers 1740, le succès de l'opéra italien nous amène à emprunter un mot que l'italien avait lui-même emprunté à l'espagnol, bravo. Il désigne à l'origine les cris qui accompagnent les applaudissements. Une trentaine d'années plus tard, nouvel emprunt à l'italien, bravissimo. Si nous ne sommes pas surpris de constater notre dette à l'égard de l'italien, nous le serons peut-être davantage de voir l'importance de nos emprunts à l'arabe. Plus de 200 mots. Nous ne devons pas oublier que l'arabe était devenu au Moyen-Âge, en Orient et en Espagne, le véhicule de la science. D'où l'introduction de mots venus de l'arabe en mathématiques, chiffres ou zéros. Celui-ci, alcool, en passant par l'italien en chimie, alcool, alcali, élixir, alambic, ces deux derniers mots ayant été empruntés au grec. En sciences naturelles, gazelle, girafe. abricot a été emprunté par le français au catalan, qu'il avait lui-même emprunté à l'arabe. Après avoir conquis la péninsule ibérique, les Arabes avaient planté d'immenses vergers où l'on cultivait les abricotiers. Mais les Arabes avaient eux-mêmes emprunté le mot abricot au grec, qui l'avait lui-même emprunté au latin, précoquam, fruit précoce. Les mots sont de grands voyageurs. L'arabe a souvent été une langue de passage. Il nous a amené la babouche, qu'il avait emprunté aux persans. Quant à ce mot magnifique, azur, cher à Mallarmé, il nous vient de l'Espagne, qui l'avait lui-même emprunté à l'arabe. En ce qui concerne le germanique, qui a fortement marqué la prononciation de notre langue, il nous a donné un nombre relativement restreint de mots. Il en est un pour nous d'importance capitale. La France, pays des Francs. C'est au germanique que nous devons la consonne initiale H de H, Huch, Al, Hangar, ainsi que de nombreux mots commençant par G, comme guerre. À l'allemand du XVIIe siècle, nous devons quelques mots que nous ont apportés les mercenaires des armées du roi de France ou des princes, la rosse, de l'allemand ross, le cheval et trinqué, de trinken, boire. Aux savants allemands, Max Planck et Einstein, nous devons ce mot venu directement du latin, les cantas ou quantum. On ne s'attend sans doute pas à ce qu'un nombre aussi important de mots vienne du néerlandais, plus de 150. C'est que les contacts avec les Pays-Bas ont été nombreux, par exemple dans les grandes foires de Champagne. Au XVIIe siècle, de véritables colonies hollandaises s'étaient implantées dans plusieurs ports français, Dieppe ou Bordeaux, d'où de nombreux mots concernant la marine et la navigation, le fret, le lest, ou les produits de la mer, le bar, le cabillaud, le crabe, restés féminins jusqu'au XVIIIe siècle. Les Vikings, devenus les Normands, se sont mariés avec des Françaises et leurs enfants ont adopté la langue maternelle. Ils n'ont guère laissé de traces en français, mais pour les noms de lieux, il faut souvent se référer à une langue scandinave. Dans Krikbœuf, le bœuf signifie abri. Dans Kotbeck, Holbeck, Brikbeck, le bec est le ruisseau, comme dans plusieurs villes danoises. Quant à Honfleur, Erfleur, Barfleur, le fleur n'est pas le signe du printemps, mais une crique. Si nous faisons escale en Espagne, nous verrons que l'espagnol nous a apporté de nombreux mots qu'il a puisés dans les langues amérindiennes, le cacao, la tomate, le caïman, la pirogue ou le cannibale, mais aussi des mots à la sonorité éclatante, le matador, picador, le conquistador, sans oublier un mot plus simple, le camarade, de camarada. La chambrée, les camarades étant ceux qui partagent la même chambre. Au portugais, nous devons des mots qui sont aussi originaires d'Amérique latine, la cajou, cobaye, le jaguar, et quelques mots du portugais d'Europe, la pintade, poule peinte ou le cachalot. Le russe ne nous a guère donné de mots avant le XIXe siècle. Chez Madame de Staël, on trouve moujik ou ukaz. Chez Dumas père, tsar, tsarine, samovar, isba, vodka. À partir de 1917, soviet et bolchevique commencent une longue carrière. Il faut faire une place particulière au grec. C'est le grec classique qui a servi à former de nombreux mots dans le domaine scientifique. Nous aurons le téléphone, le télégraphe, la géologie. En chimie, Lavoisier a baptisé l'oxygène, qui engendre les acides, et l'hydrogène, qui engendre l'eau. Gay-Lussac, l'iode, iodos, couleur de la violette, et le chlore, chloros, vert. Le mot chlorophylle a été fabriqué par Pelletier et Caventou et chloroforme par le chimiste français Jean-Baptiste Dumas. Microbe a été créé à la fin du XIXe siècle par le chirurgien français Charles Sédillot avec le concours de Littré. L'avantage de ces mots, c'est qu'ils peuvent passer facilement dans d'autres langues, en particulier dans l'anglais. Avec l'anglais, nos relations ont été particulièrement importantes. En 1066, à la cour de Guillaume le Conquérant, on parlait naturellement français. Ensuite, l'anglais s'étant imposé, il a fait des emprunts considérables aux Français. Chez Chaucer, par exemple, qui a vécu de 1340 à 1400, on compte plus de 250 mots français qu'il est le premier à employer. Certains des mots anglais empruntés aux Français sont si bien devenus anglais qu'on a de la peine à les reconnaître quand ils reviennent en France. Le tunnel, c'est la tonnelle. Flirter, c'est compter fleurette. Et le tennis, c'est le tenez du jeu de paume au moment de lancer la balle. C'est au XVIIIe siècle que les mots anglais commencent à passer en France, surtout des mots de la vie parlementaire. Ils arrivent en France peu après leur naissance en Angleterre. Vote, 1702 en Angleterre, 1789 en France. Majorité, 1735 en Angleterre, 1760 en France. Opposition, 1745 en Angleterre, 1772 en France. Jury, 1792 en Angleterre, 1793 en France. Verdict, 1790 en Angleterre, 1796 en France. Ce passage se fait d'autant plus facilement que la plupart de ces mots viennent du latin. Au XIXe siècle, l'arrivée d'Angleterre des chemins de fer nous donne le tunnel, le rail et le wagon. L'adoption des sports nous donne le sport, mot venu du français déporté. Le football et le rugby. De nos jours, c'est un déferlement, d'autant plus menaçant que l'anglais est non seulement la langue de l'Angleterre, mais celle des États-Unis, et que nos jeunes se tournent volontiers vers les États-Unis, pays du jazz et du cinéma, alors que de moins jeunes y trouvent la civilisation dominante du monde moderne. D'où les mots du spectacle, le casting, le clip, le non-stop, les mots des médias avec le freelance ou la voix off. Le snobisme s'en est mêlé. Etiamble a publié en 1964 un livre « Parlez-vous franglais ?». Il y mène contre l'anglais un combat semblable à celui qu'avait entrepris au XVIe siècle Henri Estienne contre l'italien. Mais à l'époque de la civilisation de masse, des multimédias et de la mondialisation, le danger est beaucoup plus sérieux. Chaque jour, nous rencontrons les subprimes et nous ne parlons pas des prêts à haut risque. Même dans les textes académiques, on fait l'éloge des think tanks et non des groupes de réflexion. La bataille est-elle perdue? Ce n'est pas certain. Déjà, des mots anglais ont été intégrés dans de bonnes conditions au français. Le packet boat est devenu le paquebot et le riding coat, la redingote. Etiamble et Raymond Queneau ont proposé d'orthographier cocktail à la française, pourquoi pas. Certains mots empruntés à l'anglais ont vite disparu. Les teenagers sont devenus des ados. Surtout, il faut faire confiance à l'esprit d'innovation de ceux qui parlent notre langue. Lorsque se développe la computer science, qui a révolutionné notre époque, c'est un Français, Philippe Dreyfus, qui propose en 1962 l'informatique. Pour désigner un email, nos amis québécois ont créé le mot « courriel », courrier électronique. Le mot « Internet » est emprunté aux États-Unis, mais son préfixe latin lui a permis de passer facilement en français. Au cours des années qui viennent, il est probable qu'une partie décisive va se jouer. Il est possible de la gagner. Les gouvernements des pays francophones, l'école, les médias, tous les francophones en quelque sorte, y sont engagés. Certes, il n'est pas question que le français soit langue universelle, comme au temps de Rivarol, mais il faut qu'il conserve toute sa dignité et sa beauté.
Mais les mots ne viennent pas seulement d'autres langues de pays voisins, ils viennent aussi de personnes, célèbres ou pas, et surtout d'expressions régionales. Jean Aubat s'avance également vers les pays francophones, où la langue française s'enrichit d'expressions particulières.
Après avoir considéré ce grave problème, nous avons le droit de nous accorder une petite récréation en examinant des noms d'objets qui viennent de noms de personnes et parfois ne manque pas de pittoresque. Eugène Poubelle était un préfet de la Seine qui, en 1884, prit une ordonnance obligeant les Parisiens à regrouper leurs ordures dans un récipient qui prit le nom du préfet. Godillot, dynamique entrepreneur du Second Empire, fit sa fortune essentiellement grâce à la guerre de Crimée, en 1855, durant laquelle il équipa les troupes françaises des solides chaussures qu'on appela aussitôt les godillots. C'est encore le nom familier de nos bonnes grosses chaussures. Parmentier, qui introduisit la pomme de terre en France au XVIIIe siècle, a donné son nom au hachis parmentier. En remontant plus haut, nous trouvons le moine italien Ambrogio dei Conti di Calipi di Calipino. En 1602, il a publié un gros dictionnaire. Le nom de son auteur, Calipino, est devenu en français Calepin et il a désigné un énorme volume. Un peu plus tard, sans raison apparente, le Calepin a perdu ses proportions volumineuses pour devenir un petit carnet de poche. Goûtons maintenant les charmes des fleurs. Linné a donné son nom au dahlia, en hommage à son disciple et compatriote suédois Andreas Dahl. Le camélia a été baptisé par Linné encore pour garder le souvenir du botaniste tchèque Kamel. Le gardenia rappelle Alexander Garden, botaniste écossais. Le catélia, cher à Proust, est une orchidée qui doit son nom au botaniste William Catley. Réjouissons-nous de voir que, malgré Poubelle et Godillot, le meilleur moyen de faire de son nom un nom commun est d'être un savant. Watt est écossais. Volta, père du Volt, italien. Ampère, français. Le curium honore les époux Curie. Le vocabulaire français nous apparaîtra plus riche et plus varié encore si nous tenons compte des régionalismes. Sans doute la radio et la télévision diminuent-elles leur importance, mais ils subsistent encore. Quand je suis arrivé à Paris venant de Bordeaux, au milieu d'étudiants parisiens ou venus d'autres provinces, j'ai été surpris que les Parisiens parlent d'un sac de sel et les Dijonnais d'un cornet, alors que pour moi c'était une poche. Pour faire un sac, pour moi, il fallait beaucoup de pommes de terre. À Bordeaux, on ne repasse pas le linge, on le lisse, et on demande à l'épicier de vous plier vos œufs. D'après une enquête d'Henriette Walter, on utilise 21 mots différents pour désigner ce que la plupart des francophones appellent la serpillière, mais que l'on nomme aussi vassingue, torchon, loque. Pour tourner la salade, on trouve 16 verbes différents. C'est presque un usage familial car dans chaque région, plusieurs verbes sont employés. En général, on tourne la salade, mais aussi on la retourne, on la brasse, on la mélange, on la touille, on la remue, on la fatigue, on la relaxe. Si nous quittons l'Hexagone, nous suivrons d'abord Bernard Cerchiglini en Belgique. Il a relevé dans un roman de Siménon un belgicisme. En entrant dans le bistrot, Maigret faillit recevoir la savonnée dans les jambes. La savonnée est une eau savonneuse, ici celle avec laquelle on lave le carrelage. Comme quand on savonne, on frotte énergiquement. Savonner a pris le sens de réprimande, prendre une bonne savonnée. Cerchiglini conclut « La Savonnée de Simenon et des Franco-Belges devraient bien rejoindre le français commun ». Pour le Québec, Henriette Walter nous présente un petit lexique franco-québécois. Je retiendrai seulement les bleuets pour les myrtilles, la couverte pour la couverture du lit, la débarbouillette pour le gant de toilette, magasiner pour faire des courses, un mousse pour le petit garçon. Nous avons déjà remarqué que grâce à leur courageux combat en faveur du français, les Québécois nous ont donné courriel. Ils ont eu moins de succès en nous proposant pour « chat », anglicisme signifiant un échange de communication sur Internet, « clabaudage », qui est pourtant charmant. Avec Henriette Walter encore, nous trouverons « essencerie » pour « poste à essence » au Sénégal, « torcher » pour « éclairer avec une lampe électrique » au Cameroun, et en Côte d'Ivoire, « marabouté » pour « jeter un sort » dans plusieurs pays d'Afrique occidentale. Boyerie pour logement réservé aux domestiques au Burundi et au Rwanda.
Jean Aubat poursuit cette histoire de mots en se penchant plus particulièrement sur quatre d'entre eux. Amour, civilisation, révolution, travail. Peut-être a-t-il pour eux une affection toute particulière, peut-être considère-t-il que ces quatre mots sont assez représentatifs de l'esprit français, jugez-en.
Nous avons rencontré de nombreux mots de souche ou naturalisés, chacun ayant sa personnalité. Je vous propose pour terminer d'examiner de plus près quatre mots qui seront pour nous comme des amis particulièrement intéressants. Le premier est un des mots les plus répandus, les plus beaux aussi, amour. Il vient directement du latin amor. Celui-là, les légionnaires l'ont respecté. Sa transmission est naturelle. Elle a tout de même une singularité qu'a souligné Bernard Cerchiglini. Les mots latins avec une voyelle O long, accentuée, ont donné au français heure. Florem est devenu fleur. Mais en Languedoc, or est devenu our. Ainsi, dans la Corrèze, la ville de Pompadour, dans le sud-ouest. L'adour, les troubadours, c'est la langue occitane qui a été, selon le mot de Cerchiglini, le laboratoire du sentiment amoureux. C'est en quelque sorte au pays d'Oc que nous devons l'amour. Le deuxième mot a fait l'objet d'une remarquable étude de Lucien Fèvre. Civilisation, le mot et l'idée. Civilisation est aussi un beau mot. Il caractérise un état social dans l'ordre moral, intellectuel ou esthétique où l'homme atteint son niveau le plus élevé. Il n'apparaît qu'au XVIIIe siècle, vers 1760, à peu près au même moment en France et en Angleterre, sans qu'on puisse dire exactement quel pays l'a employé le premier. Ce qui peut nous paraître étonnant, c'est qu'on ait pu s'en passer si longtemps. Quel mot utilisait-on ? Le mot « police » qui signifie l'organisation d'une société. Montaigne écrit « Cette police de la plupart de nos collèges ». Police, qui maintenant implique essentiellement l'idée d'ordre, avait un sens beaucoup plus vaste. Mais l'organisation d'un État n'est pas cette harmonie du monde que représente la civilisation. La civilisation est un rêve du XVIIIe siècle. En ce sens, le mot n'existe qu'au singulier. Mais après les guerres de la Révolution et de l'Empire, ce grand rêve s'évanouit. Une civilisation universelle est impossible. Nous aurons des civilisations. Le troisième mot est très ancien en français. Il vient du latin et apparaît dès 1190. Mais il prend un sens nouveau au XVIIIe siècle. C'est le mot « révolution ». Il signifie à sa naissance le retour périodique d'un astre à son point de départ. Comment a-t-il pu en arriver au sens pour lequel l'arabe et le chinois recourent, paraît-il, à l'idée de soulèvement ou de destruction ? Le mot, dans un sens voisin d'une autre, apparaît d'abord en anglais avec la glorieuse révolution de 1648 qui a vu la chute de Cromwell et l'arrivée de Guillaume d'Orange. À l'idée d'un retour inéluctable se substitue celle d'un dynamisme soit créateur, soit destructeur. Voltaire applique le mot « révolution » à l'apparition de l'islam. Rousseau donne au mot son sens moderne. Il écrit dans les Mille « Nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions ». Et il ajoute en note « Je tiens pour peu probable que les monarchies d'Europe en aient pour longtemps encore ». C'est le sens du mot du duc de La Rochefoucauld à Louis XVI qui lui demande le 14 juillet 1789 « Est-ce donc une révolte ?» Il répond « Non, sire, c'est une révolution ». Le mot de « révolution » en ce sens est promis à une longue destinée. Il va être adopté dans toutes les langues d'Europe et d'Amérique. Quatrième mot, « travail », en latin « labor ». Dans un pays agricole, « labor » a donné « labour » et « laboureur ». Le sens de « travail » se retrouve dans l'adjectif « laborieux ». Autre mot, « opérare », qui a donné « ouvrer », que nous trouvons encore dans « faire ouvrer »,« travailler à la forge ». Il a disparu, victime peut-être de sa trop grande ressemblance avec « ouvrir ». L'étymologie du mot « travail » est moins glorieuse. Il vient du latin « tripalium », qui signifie une machine à trois pieux, un instrument de torture. Le travail apparaît comme une peine, un tourment. Ce sens se retrouve encore au XVIIe siècle chez Corneille. Un songe me travaille. Ou chez Bossuet, les grands travaux que notre Seigneur a souffert. Mais travailler a son sens actuel dès le XVIe siècle chez Rabelais. Les télémites se levaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient quand l'idée leur en venait. Il est intéressant et même émouvant de voir que chez Lamartine, le travail est étroitement lié au labour. Dans Jocelyn, c'est une scène de labour qui amène le poète à lancer la grande invocation « Ô travail, sainte loi du monde !» Mais pour Marx, en régime capitaliste, le travail, véritable aliénation, est redevenu tripalium. Pourtant, Marx a aussi cette belle formule « Le travail remet de l'huile dans la lampe de la vie, la pensée y met la flamme ». Après avoir saisi l'origine et le sens des mots aussi essentiels dans notre vie qu'amour et travail, il est sans doute permis de s'arrêter. Pardonnez-moi d'avoir été si long et de vous avoir promené à travers tant de siècles, de pays et de domaines. Mais l'histoire de ces mots si variés, souvent si originaux, si beaux, si riches de sons et de sens, cette histoire est, je crois, un hymne à la vie.
Vous venez d'entendre, grâce au comédien Fernand Guillot, la lecture d'une conférence donnée par Jean Aubat, correspondant de l'Institut. Et je profite de cette lecture pour vous dire quelques précisions sur la carrière de Jean Aubat. Né en 1917, Jean Aubat a passé son enfance dans le sud de la France, a suivi ses études à Bordeaux, puis à la très prestigieuse École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Et après son agrégation de lettres, il se destinait à l'enseignement. Mais la vie en décida autrement. Il part pour Copenhague, chargé de créer l'Institut français, puis à Londres, où il est attaché culturel. Et à ce titre d'ailleurs, en 1953, il assiste aux premières loges au couronnement de la reine Élisabeth. L'année suivante, il revient en France comme inspecteur d'académie, puis il entre dans les bureaux du ministère de l'Éducation nationale, appelé par les divers ministres, Louis Jox, Pierre Guillaumat, Pierre Sudreau, Louis Jox, de nouveau, Jean Aubat et de tous les cabinets ministériels, car sa compétence, sa fermeté dans les décisions et sa grande courtoisie sont très appréciées. Disons encore qu'il a soutenu la création du CIEP, le Centre international d'études pédagogiques de Sèvres, et celle de la FIPF, la Fédération internationale des professeurs de français. En un mot, Jean Aubat est de ceux qui ont contribué à imposer le rayonnement international de la langue française, ce grand commis de l'État, passionné par l'enseignement, la transmission, la culture, est aussi membre de l'AMOPA, les membres de l'Ordre des Palmes académiques, et c'est dans ce cadre qu'il a donné la conférence que vous venez d'entendre pour la section 12 de l'AMOPA, présidée par Gérard Colpin, directeur de l'École nationale supérieure de chimie, physique et biologie de Paris. Ce texte est disponible sur le site de Canal Académie et dans la revue de l'AMOPA numéro 185, que nous remercions de cette autorisation de lecture.